Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDIWA, à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans l'interview du jour, je suis ravie de vous faire découvrir cette pratique, donc l'assise immobile et silencieuse. Pour ce faire, Christine Reynaud, une enseignante de cette pratique, est présente et nous propose d'ailleurs, avant de partir sur une discussion qui nous fera découvrir un petit peu ce domaine, propose ce mercredi 27 novembre à 19h au centre de l'Aube de Piégros-Laclastre, que l'on connaît très bien ici sur RDIWA, un atelier découverte donc sur l'assise immobile et silencieuse. Alors pour commencer, bonjour Christine.
Bonjour Aurélie et bonjour à tous.
Alors l'assise immobile et silencieuse, ça me pose des questions moi, qu'est-ce donc ?
Eh bien c'est bien le but justement, qu'est-ce que c'est et quelles questions ça va nous poser ? Alors l'assise immobile et silencieuse est une pratique corporelle pour goûter les effets du silence et de l'immobilité et voir qu'est-ce qui se passe en nous.
Alors moi, très naturellement, j'aurais envie de parler de méditation. Peut-être que vous avez plus d'éléments à nous fournir.
Alors, la méditation est une pratique d'une certaine assise immobile et silencieuse avec ses règles, ses lois et ses buts, ses objectifs. Nous, ce n'est pas notre pratique, donc je ne vous parlerai pas de méditation puisque moi, ce n'est pas une pratique que j'ai, mais toutes les pratiques sont bonnes dans la mesure où elles vont nous apporter quelque chose pour nous nourrir et pour nos vies. Moi, je serai là pour vous parler de l'assise puisque c'est celle que je pratique.
Donc cette assise, visiblement, se réfère à un enseignement tout particulier. Je vous laisse l'évoquer.
Alors, l'assise immobile est la pratique de base dans notre école. C'est-à-dire que je suis dans une voie spirituelle qui s'appelle Arthas. Une voie pour développer le meilleur de l'humain. C'est-à-dire que c'est une école qui va se pencher sur la vie intérieure et qui va relier les dimensions psychologiques et spirituelles de l'homme. Et la pratique de l'assise immobile est la pratique de base qui part du corps. C'est-à-dire que c'est notre corps qui va nous interpeller et nous faire sentir comment on va, comment on est, ça va être notre appel à l'ordre. Et à partir de là, développer une pratique d'écoute et d'attention pour soi.
Donc concrètement, les participants arrivent, donc j'imagine que vous les guidez un peu dans les premières démarches. Au final, on se retrouve dans une posture toute particulière. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous laisse développer, Christine.
Alors vous parliez d'une posture ou d'une position particulière. Bien sûr que nous, dans notre pratique, on a plusieurs positions qu'on va essayer de tester, mais l'objectif, c'est de chercher pour chacun quelle est la position juste dans l'instant pour accéder à un certain silence et une certaine immobilité en soi. Mais ça peut se faire sur une chaise, ça peut se faire au milieu de la rue, ça peut se faire ailleurs, chez soi. C'est pas réservé à une fois par semaine. Voilà. Simplement, c'est que ces soirées-là, pour nous, c'est des soirées de musculation où on s'offre dans nos vies une heure par semaine pour venir se poser dans un certain silence et une certaine immobilité. Et que quand on aura goûté à ces effets-là, eh ben on va pouvoir le mettre plus facilement dans nos vies. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est pas de ne pratiquer que dans la salle de musculation. C'est de pouvoir, après, l'appliquer dans sa vie.
Au quotidien.
Au quotidien.
Donc, voilà. Concrètement, dans sa vie, qu'est-ce que ça apporte ?
Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, par exemple, quand on a une décision à prendre ou quand on a des choses à faire dans la vie courante, on court, on fait. Et que simplement avoir le réflexe de s'arrêter quelques secondes et se dire « Dans quel état intérieur je suis là ? Je suis en colère, je suis énervée, je vais trop vite ?» Voilà, c'est prendre du recul sur la situation. Et par l'expérience de connaissance de soi, arriver à sentir où est-ce que je suis dedans et chercher le plus juste dans l'instant. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte que nos journées vont avoir un goût différent si on a une attention à soi, parce que du coup, on aura une attention aux autres. Et puis après, il y aurait plein de choses à développer sur ce sujet-là. Chacun est responsable de sa vie et maître de sa vie. Et chacun va prendre les moyens ou les outils qui lui semblent bons pour lui. Voilà, mais on se rend bien compte que dans le monde dans lequel on vit de plus en plus, ce sont toujours les autres qui sont responsables de tout ce qui nous arrive. Il y a des coupables dehors tout le temps.
C'est de sa faute.
C'est toujours la faute de l'autre. Alors que si on s'arrête un temps et qu'on observe de façon neutre l'enchaînement des événements, si on est honnête, on va se rendre compte que finalement, il nous arrive toujours les mêmes choses, toujours les mêmes situations. On a toujours les mêmes façons de se ressentir. Donc on est bien responsable, quelque part, de la façon dont on se positionne. Donc, éveiller cette curiosité pour son propre fonctionnement personnel, être touché de voir comment on s'est construit, puisqu'on s'est construit comme ça pour vivre, c'est pas le mal, c'est notre façon de vivre, mais qu'on pourrait en profiter de cette façon de vivre plutôt que de la subir. Voilà, et bien l'assise immobile va nous permettre de rencontrer au fond de nous qui on est vraiment.
On parlait tout à l'heure du fait de reporter sur les autres la responsabilité de ce qui nous arrive de mauvais dans la vie. Eh bien, dans certaines pratiques, on appelle ça sa propre création, finalement. C'est que, bien sûr, les autres ont leur rôle à jouer en tant qu'élément extérieur, mais finalement, la vie qu'on a, c'est celle qu'on se crée. Et là, vous, ce que vous proposez, c'est un moment d'honnêteté, finalement, avec soi-même et de regarder les choses en face, quoi. Toi, en tant qu'individu, tu peux changer ça, tu peux permuter cette énergie négative en quelque chose de positif. Et alors, concrètement, moi, ce qui m'intrigue un peu, suite à cette séance d'assises immobiles et silencieuses, est-ce qu'avec l'enseignant ou l'animateur, est-ce qu'il y a un moment bilan à la fin de cette...
Alors, dans notre pratique hebdomadaire, justement, donc il y a un rituel par rapport à ces soirées. Dans un premier temps, c'est un temps d'assises pendant une heure où il y a une pratique qui est annoncée avant et qui est pour chacun dans sa pratique personnelle à travers ce que la vie va apporter ce soir comme interpellation physique ou psychique que l'on va traiter ou pas. Voilà, on va être dans notre assise le résultat de notre journée. Si on arrive fatigué, énervé, on va forcément avoir des éléments de cet ordre-là. Et le fait de s'arrêter, ça va nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et d'en profiter. Ça va donner du sens à ce qui nous arrive. Et le deuxième temps de l'assise, où là, on se met en cercle, et la personne qui anime la soirée est au service du groupe pour aider à cheminer plus loin. Pas pour apporter des réponses toutes faites et des conseils, mais pour entendre le fait que dire, ben voilà, dans ma pratique, je suis allée jusque-là, puis là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ou à quel endroit j'ai buté ? Voilà. Et donc, l'animateur ou l'enseignant qui est là, en toute sincérité et honnêteté, va aider la personne à faire le pas de plus, à mettre en lumière ou à conscientiser un peu plus ce qui a été vécu. Voilà. Et de semaine en semaine, ça chemine. Mais cette pratique de l'assise, c'est un élément de notre voie spirituelle, de notre école. À côté de ça, il y a d'autres enseignements, il y a d'autres matières, il y a d'autres stages. Voilà. L'assise, c'est la pratique de base. D'accord. Qui passe par le corps, mais c'est indissociable du reste.
Alors, sur votre chemin personnel, Christine, comment arrivez-vous à finalement devenir enseignante de cette assise ? J'imagine que vous l'avez pratiquée en tant que stagiaire ou...
Alors, il y a un peu plus de 20 ans, donc, nous étions avec des amis, j'avais des amis proches, et on cherchait d'autres choses en se disant « la vie, ça ne peut pas être que ça ». Voilà. Et on a vu qu'ils changeaient, enfin moi j'ai vu qu'ils avaient changé dans leur quotidien, dans leur façon d'être dans le couple, dans la façon d'être avec leurs enfants. Il y avait plus de tendresse, plus de sincérité. Et là, je me suis dit, ils ont trouvé quelque chose qui marche dans le quotidien. Ce n'est pas des grandes idées, des grandes philosophies, mais il y a une action dans le quotidien. Donc, je suis allée voir. Et là, j'ai rencontré Bernard Monteau et cette association, voilà, dans laquelle je suis un peu plus de 20 ans. Et que, ben, à l'heure d'aujourd'hui, où j'en suis, j'ai envie de le faire connaître, de le faire savoir. Puisque si ça marche pour moi et pour d'autres, mais ça pourrait être une solution pour plein d'autres personnes qui cherchent également. Il faut que ça se sache. Voilà. Donc l'objectif, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis venue vous demander de pouvoir en parler. C'est que les gens puissent savoir que des solutions existent à nos malaises existentiels. Voilà, et qu'après, bah, on est libre ou pas de s'en saisir. Mais moi, l'objectif que je poursuis, c'est de le faire connaître. Savoir que ça existe, que ça n'engage à rien, qu'on peut venir voir, qu'on est libre, qu'on ne va pas être obligé d'être assis sans bouger pendant une heure, d'accord ? Le cadre, c'est une heure, mais dans cette heure-là, il est hors de question de se faire mal. quand on sent que, ben non, là, je vais arrêter le jeu pour aujourd'hui, on est libre simplement, c'est de respecter les autres qui continuent l'expérience.
Bien sûr. Voilà. Et effectivement, hein, face au silence, beaucoup de personnes sont incommodées.
Bien sûr.
Pourquoi ?
Mais parce que, pourquoi ? Dans nos vies sont pleines de choses extérieures et on court tout le temps et on fait plein de choses. On est dans un monde où on fait. Alors que le silence et l'immobilité, qui sont l'expression extérieure de la sagesse, c'est un monde où l'on est, du verbe être. Oui. Donc forcément, notre être est mal à l'aise à cet endroit-là, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Donc ça va être une, petit à petit, s'approcher de cette expérience et l'apprivoiser pour en goûter les effets. Et quand on en goûte les effets, mais on a envie de le mettre dans sa vie au quotidien. Mmh. Démarrer la journée par une petite assise, goûter à son silence intérieur plutôt que de partir bille en tête, et ben ça nous change la journée.
Je crois que je vais devoir m'inscrire. Hein. Donc ce 27 novembre à 19h, j'en ai bien besoin, il me semble. Donc vous, ça fait 20 ans que vous pratiquez cette assise. Vous l'avez pratiquée en tant que participante, vous devenez enseignante.
Oui.
On va évoquer des raisons plus pragmatiques. Comment vous devenez enseignante de cette pratique ?
C'est pas une promotion, ou c'est pas un titre, c'est pas une place honorifique de cette façon-là, parce que moi, je n'avais jamais envisagé d'être enseignante, bien au contraire. Mais la vie nous pousse à aller vivre des expériences qu'on ne voudrait pas vivre. La vie est faite de dépassements, petits dépassements plus petits dépassements. Voilà. Et le jour où j'ai pu identifier dans mon histoire, puisque notre recherche passe aussi par une réconciliation avec nous-mêmes, donc avec notre passé, comment on s'est construit, pourquoi on s'est construit. Le jour où j'ai compris et senti pourquoi je ne voulais pas de cette responsabilité d'accompagner des êtres, je me suis dit que ce n'était que ma lecture à moi du monde, mais que ce n'était pas la vérité ni la réalité. Et que le dépassement était justement peut-être d'aller enseigner et d'aller me mettre au service de cette expérience pour que d'autres puissent en profiter. Donc, venir aussi à la radio, pour moi, ce n'est pas quelque chose de simple, mais qui, en même temps, me réjouit et me met en vie. Voilà.
Et mais concrètement, alors, comment vous devenez enseignante ? C'est suite à tant d'années de pratique ?
Dans notre école, le cursus, c'est qu'au départ, on peut être pratiquant libre, c'est-à-dire qu'on vient, à l'assise, voilà, on vient voir ce qui se passe, on rencontre le fondateur, je vous en parlerai, Bernard Monteau, donc, dans des sessions qui sont organisées pour tous. Et il y en a une très prochainement à l'aube, le 14 et 15 décembre. C'est un week-end découverte de l'association Arthas. Voilà. Donc, on vient pour être pratiquant libre. Et puis ensuite, quand on sent que cette pratique nous apporte, on va s'engager dans une pratique régulière. C'est-à-dire toutes les semaines, on vient à l'assise. Et à côté de ça, on peut bénéficier et aller chercher dans des stages les autres matières de l'école. Voilà. Et une fois qu'on est de plus en plus à l'aise dans ces matières-là, vient un jour où il est normal que l'on rende à la structure, à cet enseignement, tout ce que l'on a appris et qu'on le propose à d'autres. Voilà. Donc c'est une question de maturité personnelle qui va faire qu'on aura envie ou qu'il va nous être proposé cette aventure-là. Ce n'est pas un but en soi.
Oui,
être enseignant, c'est une étape, parce qu'après, la suite, ça va être de... Mais comment est-ce que moi, je vais pouvoir le mettre dans ma vie et proposer ma forme de service qui me convient à moi ? C'est être dans un temps répétiteur pour posséder cet enseignement en le retransmettant, pour ensuite l'adapter à ma forme particulière. Donc c'est tout un cheminement de vie. Mais c'est pas je m'inscris dans cette école pour dans 3 ans être enseignant.
Voilà, c'est
en
ça,
même
j'avais
temps,
besoin
ça,
de savoir.
Voilà, ça peut être un but extérieur, mais c'est tout un cheminement intérieur. Mm-hmm. Je sais pas si c'est très clair.
C'est très clair. Justement, on va profiter un petit peu de vos 20 années d'expérience. Quelles sont les réactions en général les gens qui viennent pour la première fois, comment vivent-ils cette aventure intérieure ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce qui est notable à exprimer, justement ?
Alors, par rapport à l'assise, c'est vrai que très souvent, les gens sont surpris du bienfait de se poser dans le silence et du bonheur qu'on goûte. Parce que dans un premier temps, c'est ça, c'est oh, enfin. C'est comme si notre être rejoignait une patrie. Oh, mon Dieu, que c'est bon. Mais ça ne dure pas. Parce que très vite, le psychisme va reprendre le dessus, il va y avoir des commentaires, des pensées, et on va avoir dans son corps des manifestations, des bouffées de chaleur, des douleurs, des inconforts, qui vont faire que ce bonheur ne peut pas durer, quoi. Voilà. C'est ça. Quand on va comprendre et sentir que tous ces commentaires, ils nous appartiennent et qu'on a le pouvoir dessus, pas les combattre, mais au contraire, les apprivoiser, les comprendre pour les mettre à leur juste place et sentir qu'est-ce qui est juste pour nous, et ben ça va être de fréquenter de plus en plus cette patrie de silence et d'immobilité qui nous nourrit. Et que c'est à cet endroit-là qu'on va aussi pouvoir avoir accès à nos intuitions, à l'être qui habite en nous. Il y a deux façons, il y a deux voies en nous. Il y a la voie où on est tout le temps le dernier, le plus nul, où on se juge, où c'est la faute des autres. Voilà, toute cette force de jugement qui est en nous et qui parle très très fort en nous, très fort. Et puis il y a une autre voie intérieure qui, elle, parle beaucoup plus doucement, qui parle de la vérité, mais que pour pouvoir l'entendre, il faut faire cesser le bruit extérieur et les commentaires extérieurs. D'où le silence et l'immobilité que l'on va chercher. Cette expérience de dialogue avec soi-même, elle est issue de l'expérience des dialogues avec l'ange de Gita Malache, dont Bernard Monteau a été l'élève, voilà, et qui est à la base de l'enseignement d'Arthas.
Vous voulez développer peut-être, c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu plus de Bernard Monteau.
Alors, Bernard Monteau est le fondateur de cette école de la vie spirituelle qui est issue de sa propre expérience de vie et de son propre enseignement. Il n'a pas décidé un jour, je vais créer une école de la vie intérieure. C'est sa propre vie à lui, les événements de sa vie qui l'ont mis en recherche personnelle et les rencontres qu'il a faites autour de lui. Et ensuite, les personnes qui, autour de lui, voyant sa vie changer, eh ben, sont allées avec lui également dans cette recherche. Et qu'au départ, ce qui était une association est devenu une école qui aujourd'hui compte 40 groupes de pratique en France, plus d'autres groupes à l'étranger et à l'international. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de Bernard ?
Alors moi, j'ai bien
envie. Je ne peux pas me permettre de parler de sa vie
Son
nom. Mais par contre, les personnes qui veulent le rencontrer, on aura la chance de l'avoir à l'aube du 16 au 20.
D'accord.
Le 14 et 15 décembre, c'est un week-end découverte d'Arthas avec des enseignants d'Arthas, dont Ugren.
Qu'on connaît très bien ici. Voilà. À
et à partir du 16 jusqu'au 20, Bernard Monteau sera en séjour à l'aube. Et toute personne qui souhaite le rencontrer peut venir prendre un temps de 3 jours minimum de bilan sur sa vie et le rencontrer au rendez-vous de 18h pour poser ses questions essentielles, où lui répondra avec son intime conviction.
Voilà. Donc, alors on est en France, hein, un pays quand même assez paranoïaque.
Oui.
Et quand je vous entends parler de Bernard Monteau, qui me semble très honorable, il n'y a aucun problème en ce qui me concerne. Par contre, j'ai un terme qui me vient, c'est le terme de secte. Comment vous pourriez vous en défendre si on vous taquinait avec ça ?
Il est complètement normal que la question vienne à l'esprit parce que tout ce qui dérange, on va dire, dans nos comportements ou dans nos façons de faire, peuvent être assimilés à une secte où on va nous enfermer, nous cloisonner, formater notre pensée.
Nous demander plein d'argent.
Voilà. Donc après, on est prêt à entendre les arguments qui font ou qui feraient penser que Arthas est une secte et que de ce côté-là, mais bien évidemment que si des questions se posent, les réponses sont à donner.
Je pense que c'est important pour nos auditeurs.
Mais vous avez tout à fait raison parce qu'on est dans un pays de plus en plus méfiant par rapport à tout et que quand on est dans des pratiques ou dans des idées qui dérangent, c'est facile de cataloguer dans une secte. Mais après, simplement à regarder, est-ce que ça nous fait du bien dans nos vies ? Est-ce que nous, notre chemin et notre pratique, c'est une réconciliation avec nous-mêmes, avec notre famille, avec la société ? Et ce n'est pas être contre, bien au contraire.
Mais si je puis me permettre, Christine, se mettre au point avec soi-même, je pense que ce qu'il en découle, c'est justement un bien-être aussi avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Je crois que ça commence par soi.
Tout à fait. Et c'est vraiment le fil de ce chemin, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas demander à l'autre de changer si déjà soi-même, on ne se met pas en route pour s'apaiser avec soi-même.
Mmh.
Voilà. Donc ça commence par retrouver l'amour premier. Et l'amour premier, c'est l'amour de soi-même.
Tout à fait.
L'estime de soi. Voilà. Et que c'est à partir de là devenir contagieux. Et qu'en devenant enseignant, c'est aussi ça. C'est que notre souhait, ça serait de devenir contagieux de bonne santé, de vie intérieure.
Mmh.
Voilà.
Chers auditeurs, vous avez quelques outils à votre disposition et notamment, vous l'aurez appris, je pense, puisqu'elle n'est pas très connue, cette assise immobile et silencieuse que vous pourrez donc découvrir ce 27 novembre à 19h au centre de l'Aube de Piégros-la-Clastre, si je vais transmettre les coordonnées. Donc une adresse mail pour tout renseignement, piégros-la-clastre@artas.org, A-R-T-A-S, et un numéro de téléphone aussi, le 06 89 44 74 43. Christine, pensez-vous avoir quelque chose à ajouter?
Je voudrais simplement dire que pour les personnes qui sont intéressées, tous les mois il y aura un atelier découverte et que si la date est ratée, n'hésitez surtout pas à contacter parce que nous nous réunissons toutes les semaines pour cette pratique.
Et d'ailleurs Christine, je me permets d'annoncer un petit peu en avance, mais vous serez amenée à venir vous exprimer sur les ondes d'Erdiwa de temps en temps, hein. Question de, j'ai envie de dire d'irradier, de devenir contagieuse.
Et je vous remercie de pouvoir m'accueillir parce que vraiment, oui, ça serait mon souhait de pouvoir faire partager ce qui m'enchante, moi, dans ce chemin. Qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien et quels sont les outils de base concrets que tout le monde peut adopter dans sa vie comme une hygiène de vie psychique. Voilà, l'hygiène de vie physique, il n'y a pas si longtemps qu'on l'a adoptée et elle est devenue un réflexe. Maintenant, ça n'étonne plus personne de se laver les mains. Alors qu'il y a 100 ans, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans les usages. Eh bien, l'hygiène psychique, nous, on fait le pari que va devenir la même chose parce que c'est une nécessité pour nos êtres.
Eh bien, quel bel optimisme en tout cas. Je vous remercie, Christine, de toutes ces précisions.
Merci Aurélie, de votre accueil. Et puis, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt, j'espère.
À très, très bientôt sur les ondes d'Erdiwa. Donc, n'oubliez pas, chers auditeurs, cette assise immobile et silencieuse de 27 novembre à 19h au centre de Piégros-la-Clastre. Cette interview est désormais disponible en podcast et ce, de manière illimitée, sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique du même nom. Je vous souhaite bon vent, Christine, et à très bientôt sur les ondes d'Erdiwa.
À très bientôt, merci.
Merci, au revoir.
Interview.
1 Terre.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.